BW. Magazine Santé.
Dans le cadre de la prise en charge médicale, bien sûr, nous faisons les évacuations hors du pays, mais on s'est rendu compte qu'à l'intérieur du pays aussi, on a besoin d'orientation dans les structures sanitaires.
L'évacuation sanitaire, c'est le sujet au menu de ce numéro de Capsule Santé. Comment, pourquoi et avec quels moyens logistiques s'organise une évacuation sanitaire? On en parle dans ce magazine. Nous irons notamment au Mali. Carole Assignon au micro, vous écoutez Capsule Santé. Bonjour à toutes et à tous. Quelle structure se tourner? Comment procéder pour transférer un proche souffrant d'un hôpital à l'autre? Au Mali, les malades ainsi que leurs proches sont régulièrement confrontés à des difficultés au moment d'aller dans une structure sanitaire afin d'y recevoir des soins. Le reportage de Mahamadou Kane, notre correspondant à Bamako.
Lorsqu'on parle d'évacuation sanitaire devant Sitan, vendeuse et femme au foyer, le souvenir du cas de sa défunte mère refait surface. Celle-ci se rappelle la manière dont elles ont été accueillies dans un grand hôpital de Bamako.
On nous néglige tellement dans les hôpitaux publics que si l'on n'y prend pas garde, on risque de perdre nos malades dans le véhicule. Lors de l'évacuation de notre mère aux urgences, par exemple, ils l'ont placée dans un fauteuil et nous ont sommé de quitter les lieux prétextant que les autorités arrivent.
Selon le professeur Boakar Niaré de la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, le problème se situe au niveau de la méconnaissance de la constitution pyramidale, du référencement et de l'évacuation médicale au Mali.
La base de cette pyramide est composée par les centres de santé communautaires. Donc ces CESCOM-là sont gérés par les ASACO et ça appartient à la communauté. Ils ont aussi les sites AEC ou encore les maternités rurales qui peuvent aller au-delà de 15 km si le CESCOM ne peut pas couvrir pour offrir la santé à la population. Alors si un CESCOM ne peut pas gérer un problème, alors il peut faire une référence ou bien une évacuation à un niveau supérieur que nous appelons les districts sanitaires ou encore le centre de santé de référence qui se trouve aujourd'hui au niveau de chaque cercle. Le troisième niveau, c'est ce que nous appelons les hôpitaux au niveau des régions et aussi ils reçoivent les références venant des CCRF. Le troisième niveau de référence, ça ce sont les hôpitaux nationaux connus sous le nom aujourd'hui des CHU qui sont pratiquement tous à Bamako. Ça c'est vraiment le dernier niveau de la pyramide.
Ce qui fera dire au professeur Boubacar Niaré que le respect du système pyramidal pourrait contribuer à réduire les temps d'attente pour les malades ainsi que leurs accompagnateurs dans les hôpitaux publics.
Il faut que le malade commence toujours par la base qui est les CESCOM. Cela permet de beaucoup désengorger vraiment les CCRF, les hôpitaux, parce que les malades pensent eux-mêmes que ma maladie doit être traitée à tel niveau, donc ils ne respectent pas la pyramide, donc ce qui fait que les hôpitaux sont vraiment beaucoup engorgés aujourd'hui.
Pour faire face à la problématique de la prise en charge des patients dans les hôpitaux publics, Aminata Hajj, qui a failli se faire opérer en Tunisie en mai 2015 suite à une fausse analyse médicale et qui a eu ensuite la vie sauve grâce à la vigilance d'un autre médecin, a créé en 2015 AMI pour Assistance Médicale Internationale. Objectif, porter assistance aussi bien aux malades sur place au Mali, mais aussi à ceux qui doivent être évacués hors du pays.
Dans le cadre de la prise en charge médicale, bien sûr, nous faisons les évacuations hors du pays. Mais on s'est rendu compte qu'à l'intérieur du pays aussi, on a besoin d'orientation dans les structures sanitaires. Donc, on a deux volets. La prise en charge à domicile, qui est s'occuper des personnes malades à la maison, soit en phase post-opératoire, ou les malades alités au lit, ou même les vieilles personnes qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Et aussi, la deuxième partie, phase, c'est l'orientation dans les structures sanitaires. Aujourd'hui, quand on tombe malade au Mali, on se demande on va où. Donc, on a un volet aussi orientation dans les structures sanitaires.
Entre déficit de communication et manque d'effectifs conséquents et des moyens adéquats, les trois hôpitaux nationaux de référence du pays, à savoir l'hôpital du Mali, l'hôpital Gabriel Touré et l'hôpital du Point G, continue de composer entre lenteur et parfois mauvaise humeur lorsqu'il s'agit de prendre en charge des patients, dont certains en situation d'urgence absolue. Mahamadou Kana, Bamako pour la Deutsche Welle.
DW.
Dans certains cas, vous l'avez entendu, il n'est pas rare que le patient ou ses proches demandent une évacuation hors du pays. Comment s'organise ce genre d'opération? On en parle avec Rachid Rochlef, directeur des opérations aériennes de la centrale de vol ambulance. Il nous explique d'abord en quoi consiste l'évacuation sanitaire.
D'un patient ou d'une personne, on procède à une évacuation sanitaire si la famille le demande ou bien, par exemple, un incident s'est passé dans un pays tiers ou une personne qui est en vacances, elle a eu un petit incident ou un accident, on a la demande de la famille pour ramener leurs proches à son pays d'origine. C'est en ce moment-là qu'on parle d'une évacuation sanitaire. Ou bien, on a une personne qui est en fin de vie et qui souhaite terminer sa vie dans son pays natal ou son pays d'origine. Dans ce cas-là, on intervient. Ou bien si les soins médicaux ils sont pas assez avancés dans le pays où se trouve le patient. Et pour cela, il doit avoir une intervention dans un autre pays. C'est à ce moment-là aussi, on intervient pour ramener le patient vers un autre pays.
En fonction des cas, quelles sont les précautions à prendre avant d'enclencher cette opération d'évacuation sanitaire?
Il y a 5 étapes cruciales pour organiser une évacuation sanitaire. Donc, on a l'alerte initiale, c'est-à-dire le médecin traitant ou l'hôpital local déclare que le patient a besoin d'un transfert vers une structure mieux équipée ou l'évaluation médicale du dossier et la stabilité du patient nécessitent qu'ils soient transférés. En deuxième lieu, on a la coordination médicale, c'est-à-dire on fait un contact entre l'équipe médicale et l'équipe qui va prendre en charge. Donc, on doit avoir le dossier médical, les examens, les imageries, le traitement des traitements en cours pour qu'on puisse évaluer l'état du patient pour savoir ce qu'on doit faire pour le transporter ou en évacuation sanitaire pour préparer l'appareil en cours qu'on va utiliser pour le transférer. Après, on vient dans la décision du mode de transport. Donc, on a 3 modes de transport pour une évacuation sanitaire, c'est-à-dire on a une ambulance terrestre si le patient il est dans une ville pour se déplacer vers une autre ville dans le même pays. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, on utilise une ambulance terrestre, mais qu'on prépare au préalable par rapport au dossier médical du patient. C'est-à-dire, on prend en compte tout ce qui peut se passer, on peut mettre un médecin à bord, une infirmière, ça dépend toujours du dossier médical du patient. Après, on a l'avion sanitaire, ça s'appelle Air Ambulance, c'est un avion médicalisé, privatisé, sur lequel il y aura tous les équipements adaptés, notamment de l'oxygène, les appareils médicaux, selon toujours le rapport médical du patient. Et donc, c'est comme une chambre d'hôpital installée sur un avion. Selon la législation aérienne des avions ambulances, un avion ambulance ne sort pas de son hangar, sauf s'il est muni d'un médecin et une infirmière pour intervenir en cas de besoin.
Vu que il y a plusieurs types d'évacuation sanitaire, vous avez parlé par exemple d'évacuation par voie aérienne, on imagine qu'il y a un coût?
Bien sûr, l'état du patient il rentre en compte, mais ce qui coûte le plus, c'est les heures de vol de l'avion, c'est-à-dire le kérosène, les autorisations, si on va passer un jour ou deux dans le pays où on va arriver, si c'est un long vol.
Une fois le patient arrivé dans le pays d'accueil où il doit être pris en charge, qu'est-ce qui se passe?
Nous, ce qu'on propose, c'est un transfert de l'IALI, c'est-à-dire on vient chercher le patient directement de l'hôpital ou l'établissement là où il est, au pays de départ. On vient le chercher avec une ambulance, on ira à l'aéroport où il y aura notre avion qui sera préparé préalablement pour l'accueillir. Et donc, notre équipe médicale se déplace avec l'ambulance pour prendre en charge le patient et l'emmener jusqu'à l'avion. L'installer en décolle de ce pays, on arrive au pays de destination. Pareil, une autre ambulance sera en train d'attendre au pied de l'avion sur le tarmac pour le prendre en charge, pour l'emmener directement à l'hôpital où sa famille, ils ont réservé pour lui, où l'intervention, elle doit se passer.
Et dans ce processus de transfert lit à lit, quels sont les plus grands défis, les difficultés auxquelles vous, en tant que qu'organisateur de ce transfert, vous rencontrez régulièrement sur le terrain?
Il y a plusieurs difficultés, donc notamment des difficultés médicales, c'est-à-dire la stabilité du patient, le risque d'aggravation en vol, le besoin de matériel spécifique, respirateur, monitoring. Donc on doit prendre en compte cela tout le temps. Il y a des difficultés administratives, c'est-à-dire obtention des visas, autorisation des autorités sanitaires et aéronautiques. Parfois, il y a les difficultés financières, c'est-à-dire le coût il est assez élevé pour le patient. C'est à ce moment-là on doit trouver une solution plus adaptée avec un coût moins élevé. Généralement, ils cherchent une prise en charge par l'assurance ou un paiement immédiat. mais on essaie par tous les moyens de trouver les solutions les plus adéquates. Il y a les difficultés logistiques, c'est-à-dire la disponibilité d'un avion, la météo défavorable, les coordinations entre différentes équipes. Parfois, il y a la barrière de la langue. Il y a aussi les difficultés humaines, c'est-à-dire les proches quand ils sont stressés, communication entre des médecins, entre des pays différents, parfois la barrière de la langue. On essaie d'avoir un collègue qui parle chaque langue pour éviter ce genre de quiproquo, en fait. Donc, on a des collègues qui parlent l'arabe, on a les français, allemand, anglais, italien, donc on a un peu de tout.
Est-ce qu'actuellement, il y a des innovations dans ce secteur de l'évacuation sanitaire des patients, avec la technologie et tout ce qui va avec?
Ça reste un secteur très divers, donc ça fait partie du secteur aéronautique. Donc le secteur aéronautique, c'est un secteur qui change tous les jours, qui évolue constamment. Et donc dans notre société, on essaie de suivre cette évolution. Par exemple, les nouveaux appareils, les nouvelles techniques. Donc on essaie d'être toujours à jour par rapport à ces changements, en fait.
Et c'est avec ces explications de Rachid Rochelef, directeur des opérations aériennes de la centrale de Volambulance spécialisée dans les évacuations sanitaires que prend fin ce magazine. Merci pour l'écoute. Cette émission, comme toutes les autres, est à retrouver sur nos différentes plateformes. Take my advice. Reach out your hand and don't think twice. And pick up that phone. Just make the call, you're not alone. Call for help when you need a friend. Call for help when you're down again. You call for help every now and then. You need some help. You call for help when you're feeling blue. You call for help and I'll pull you through. You call for help, all you got to do is call for help. Call for help. You call for help. Call for help when you need a friend. Call for help when you're down again.